tuk, tuk, tuk. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
Qu'est-ce que c'est? C'est du bruit, il y a de la batterie à fond, il y a de la guitare à fond. C'est quoi cette voix saturée? Qu'est-ce que c'est que cette façon de chanter?
C'est même plus qu'une musique, quoi. C'est carrément une culture, voire un art de vivre. On regarde autour de nous, les gens ils ont tous la banane. On est tous là pour la même chose, quoi. Écouter de la bonne musique.
Mais de quelle bonne musique parle-t-on? Du métal, bien sûr, ce soir sur France Culture, comme dans ce documentaire Metal Fantasy qui était diffusé en 2012 sur notre antenne. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui aiment le métal et les cons. Je vous cite Andrew O'Neill, auteur de Metal Story. Vous nous ferez la grâce de nous inscrire peut-être dans la première catégorie ou de nous convertir dans l'heure qui vient. On écoutera donc exclusivement du métal sous toutes ses formes à divers moments de l'évolution de ce genre protéiforme et riche en suivant le fil de votre livre, Andrew O'Neill, Metal Story, qui est édité chez Hachette Heroes. Un livre qui est écrit sur le ton d'un stand-up et pour cause, puisque c'est l'adaptation de votre spectacle. Vous êtes comédien, musicien, conférencier, mais avant tout fan de métal. Un des commentateurs musicaux les plus drôles que vous lirez jamais, fort et passionnant, écrit le grand Alan Moore à votre propos. C'est un peu mauvais genre avant l'heure ce soir sur France Culture. Un parfum d'avant-première ce soir avec aussi le groupe Rédemption qui jouera dans nos studios. Ils sont avec nous autour de la table. Avant de découvrir la grande scène du Hellfest, ce sera la semaine prochaine, c'est du 22 au 24 juin à Clisson près de Nantes, le Hellfest. Rédemption, un groupe lorrain formé par deux jeunes frères, ils ont 10 et 16 ans et puis leur père qui est à côté. Ils ont gagné le tremplin qui leur permet de jouer en ouverture samedi prochain d'une des deux grandes scènes du Hellfest. Ils joueront deux titres ce soir sur France Culture. L'occasion de vérifier votre adage, Andrew O'Neill, l'expérience du métal et la magie chamanique de la surcharge émotionnelle. Tête bouge dans le studio Angel of Death, l'ange de la mort chanté par les Américains de Slayer, un cri inhumain et ses premiers mots, Auschwitz. En quoi est-ce que cet album, Rain in Blood, qui est paru en 86, c'est le meilleur album de musique de tous les temps, selon vous, Andrew O'Neill?
C'est une synthèse de tout ce qui est métal, de tout ce qui est extrême. Tout ce qui pousse vers les limites de l'extrémité tout en restant extrême. Donc un cadre technique dont tout est maîtrisé. C'est du chaos complètement maîtrisé. Et dans ce que j'aime dans le heavy metal, eh bien, il y a tout là-dedans. Il y a de la bonne ambiance, c'est atmosphérique, c'est fantomatique, c'est rapide, c'est agressif.
Ça
répond à toutes mes exigences dans le domaine du métal, et ce en 27 minutes pour cet album. Dans la cassette, il y avait l'ensemble de l'album sur la face 1 et puis à nouveau l'ensemble de l'album sur la face B. Donc c'est tout y est.
Alors on vient d'entendre Ange de la mort par Slayer. Dans le même album, la troisième chanson s'appelle Nécrophobie, la cinquième c'est Jesus Saves. Il y a une forme d'injonction paradoxale dans le métal, c'est-à-dire pointer ce qui fait peur et en même temps l'assumer ou le revêtir. Andrew O'Neill.
I don't understand that question.
Ah, comment ça, une injonction paradoxale, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Eh bien, quand on commence un album en disant Auschwitz, est-ce qu'il s'agit de dire qu'on apprécie ce qui s'y est passé ? Parce que ça a pu être une des mésententes à propos de ce groupe Slayer.
Slayer have a habit of describing.
Je comprends. Slayer, il se place du point de vue du criminel, de celui qui fait le mal. Ça fait peur. Donc, vous faites un film d'horreur sur les nazis, par exemple. Et évidemment, on ne va pas faire l'apologie. La liste de Schindler, ça ne fait pas du tout l'apologie du nazisme. Donc, Slayer, au contraire, donne le point de vue de ceux qui font le mal, qui vont trop loin. Mais en réalité, c'est bien plus intéressant comme point de vue, parce que c'est rare ce point de vue, dans le domaine de la musique en particulier. Dans d'autres formes d'art, on retrouve ce point de vue. On voit ça dans la fiction d'horreur, ou dans d'autres formes de fiction, on explore le point de vue du méchant, du mal. Mais dans le métal, c'est nouveau. Et dans le stand-up, c'est un petit peu la même chose d'ailleurs. C'est un format qui ne peut pas s'exprimer du point de vue de celui qui fait du mal. Le heavy metal explore les extrémités de l'existence humaine, particulièrement les aspects négatifs que l'on a tendance à réprimer, à repousser. Alors, on parle beaucoup d'amour, il y a beaucoup de chansons d'amour, mais il n'y a pas beaucoup de chansons sur Joseph Mengele, vous voyez. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et puis, comme c'est de la musique heavy, c'est d'autant mieux. Chez les humoristes, il y a des débats incessants sur est-ce qu'on peut rire de tout ? Le viol, par exemple, non. Mais faire quelque chose de drôle, même si c'est de mauvais goût, ça peut quand même marcher. Mais il faut que ce soit bien fait. Je pense que le stand-up et la musique extrême peuvent faire montre d'une très grande sensibilité, d'une très grande intelligence, plus que les formes d'expression plus traditionnelles. Et puis en plus, on se marre davantage.
Alors vous l'avez, on a choisi cet album de Slayer qui date de 86 et vous le racontez dans votre livre Metal Story 1986. Ça a été un très grand cru pour le métal puisque cette année-là, Metallica sortait Masters of Puppets, un de leurs très grands disques. C'est aussi l'année où Sepultura, un des groupes que vous allez préférer, sort son premier album. Et vous allez vraiment faire œuvre d'historien musical. Vous allez raconter les origines du métal, l'importance du vêtement, les avancées techniques, esthétiques. Il y a même des conseils pratiques sur le headbanging. Il y a même des dessins pratiques qui expliquent ce que c'est que le mosh pit, donc les mouvements de la foule devant un groupe. Et puis vous donnez même la date de naissance du métal. C'est le 13 février 1970, la sortie de ce premier album. We'll be right back. un extrait du premier album de Black Sabbath. Alors on a fait venir, on a fait ressortir le 33 tours dans la discothèque de Radio France. Pourquoi est-ce que ce disque signe l'acte de naissance de la musique métal? Et je dois préciser que le groupe Redemption, quand je leur ai demandé de choisir un disque, ils m'ont dit, bah, c'est forcément c'est celui-là. Andrew O'Neill.
It's the watershed moment. Everything before Black Sabbath.
Tout commence là. Il y a l'avant et l'après, c'est cet album. Avant, c'est le proto-metal. Alors, il y a des riffs, il y a des vibes négatives, mais il y a la chanson Black Sabbath, et c'est du metal parce que c'est la première fois qu'on essaye de faire peur. C'est la première fois qu'on utilise une atmosphère culte pour faire l'équivalent dans la musique de ce que faisaient les films d'horreur depuis quelques années, quelques décennies avant. Et la musique avant, c'était censé être exaltant. Et là maintenant, avec le métal, l'expérience devient cathartique par le truchement de la négativité. Ça n'avait jamais été fait dans la musique pop, ça avait été fait dans la musique classique. Donc le riff n'est pas inconnu des gens qui aiment la musique classique, mais pour la première fois dans la musique pop, on prend les expériences négatives de la vie et on y ajoute un ingrédient de horreur. Et c'est ça qui explique pourquoi cet album est le moment critique. Alors, Sabbath n'a pas toujours fait du métal, mais Sabbath était néanmoins Black Sabbath, était le premier groupe de heavy metal. Et cet album, c'est le premier album de Black Sabbath, donc c'est le moment important. C'est un album différent de Cream, Deep Purple ou autre, ou même Led Zeppelin.
Sabbath are doom-laden.
Black Sabbath, c'est des gens qui sont dans la fatalité et c'est vraiment l'essence même, le début du heavy metal.
Et le groupe Redemption approuve. JS, vous êtes le bassiste, vous me disiez que vous écoutiez ce disque dans votre enfance.
C'est même pas dans mon enfance. J'ai pas eu le choix en fait. Mes parents passaient ce disque-là quand j'étais bébé. J'espère que ça a eu une influence sur toute ma vie. Et j'espère que ça a eu une influence sur la vie de mes enfants aussi. C'est un disque qui est très très important dans notre famille. J'ai l'édition originale. C'est quelque chose qu'on écoute religieusement. C'est pour nous. On est tout à fait d'accord avec Andrew. C'est le début de tout. Il y a un avant et un après. Il n'y a pas un groupe de hard rock ou de heavy metal aujourd'hui qui peut nier la référence à Black Sabbath. C'est impossible.
Alors Rod et Matt, votre rapport à ce groupe Black Sabbath. Rod, vous êtes enchanté, vous leviez les poings. C'est votre disque de chevet aussi. Vous avez 10 ans, je précise.
Ouais.
Alors Matt,
qu'est-ce qu'on peut dire sur cet album?
Ça vous a pas fait peur quand vous étiez enfant? Enfin, moi, mais ça m'a terrorisé quand j'étais petit.
Mais oui,
cette
bien
sorcière
avoir peur
sur la couverture.
Alors moi, je pensais que c'était aux yeux de Bande sur la couverture. J'ai appris que très récemment que c'était une sorcière. Mais bon.
Ouais, moi aussi.
She genuinely looks like an ex-girlfriend of mine.
Elle ressemble à une ancienne petite amie à moi.
To a degree that is fully uncanny.
Alors je laisse le temps au groupe Redemption de s'installer, mais une dernière question. Comment est-ce que vous expliquez, Andrew O'Neill, que Black Sabbath ils viennent de la région de Birmingham? Comment expliquer que tant de groupes de cette région, je pense à Judas Priest, Deep Purple, Napalm Death, viennent de cet endroit autour de Birmingham? Qu'est-ce qui se passe pour que le métal soit si fort là?
Partly just the depression of the area.
Ben, c'est un endroit particulièrement déprimant. Dans la période d'après-guerre, il y a eu les bombardements, donc, mais il y a aussi une ville industrielle. Donc la vie des gens était particulièrement déprimante. Donc il y a eu l'après-guerre avec les ruines, il y a eu du rationnement. Les gens travaillaient dans l'industrie lourde, il y avait beaucoup de pollution, beaucoup de fumée partout. Et par ailleurs, il y avait une scène de musique géniale, des clubs de soul, des clubs de blues et plein d'endroits pour des concerts. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait l'industrie lourde et ainsi de suite. Et donc, il y avait plein de clubs où on pouvait jouer fort en faisant du bruit, en se foutant de tout. Donc, ça a donné une scène musicale géniale et ça a donné naissance au heavy metal. Et Napalm Death existe sous prétexte qu'il y avait Black Sabbath, Judas Priest et ainsi de suite. L'un donne naissance à l'autre. Là où il y a de bonnes salles de concert, il y a pas mal de bons concerts.
Et beaucoup de bruit, vous en parliez, le bruit et la fureur, mais ça va se passer dans le studio de France Culture avec Rédemption et Frisson Assuré, un père et ses deux fils. Ils joueront Hellfest à Clisson la semaine prochaine. Hellfest, hein, c'est le, vous savez, c'est le très grand festival qui en France accueille chaque année, en tout cas maintenant, plus de 150 000 personnes. C'est près de Nantes. Rédemption a emporté la troisième édition du concours de Voice of Hell. Et ils joueront samedi prochain au matin sur une des grandes scènes du Hellfest. Ils sont ce soir dans les studios de France Culture. Matt est au chant à la guitare, Rod à la batterie et Jean-Serge leur père à la basse, Get Rid, et puis sera suivi d'une reprise. Je vous laisse deviner laquelle, vous reconnaîtrez.
Don't fall.
Rédemption dans les studios de France Culture. Vous pourrez les entendre. Ils sont sur scène le 21 juin au Galaxy d'Amnéville. C'est la grande salle près de Metz. Et puis au Hellfest le samedi 23 juin. Qu'est-ce que vous pensez de cette blondie métallisée, Andrew O'Neill, qu'on vient d'entendre, Call Me?
I am sick to my stomach at the level of precocious
je
talent.
Je suis vert de rage quand je vois ce talent incroyable et si précoce.
Yeah, I mean, I've been playing the drums for about 10 years and I am.
Moi, je joue avec des batteurs. Je fais moi-même de la batterie. Quel batteur incroyable, ce petit Rod.
Solid Metallica influence.
Donc, grosse influence de Metallica, notamment dans le chant, dans les riffs. Je me trompe?
Matt.
C'est pas voulu en fait. Vraiment, Metallica, c'était pas mon groupe.
Ah oui, j'avoue, j'y ai pensé aussi en l'entendant quand même.
Ouais, on me le dit souvent, mais c'était vraiment pas mon groupe.
Sur le premier morceau, sur Get Rid, le riff fait penser, oui.
James Hetfield, je veux bien, c'est cool.
C'est un compliment, Metallica.
Oui,
hein, on est d'accord.
And you're a better drummer than Lars, anyway. So,
et puis de toute façon, tu joues de la batterie mieux que Lars.
Il parle de Lars Ulrich, le batteur de Metallica. Oui, bien sûr. Donc, Rod, je précise donc pour les auditeurs que Rod a 10 ans. 10 ans tout juste. Mais comment est-ce qu'on met ses enfants au métal? Je pose la question.
Mais on ne les y met pas, ils s'y mettent tout seuls, en fait. Non, vraiment, ici. Moi, il y avait mes guitares à la maison. Matt, il s'est. Puis moi, les guitares, pour moi, c'est des objets. C'est pas du, je suis pas du tout collectionneur ni rien. Je dis, tu prends les guitares, tu t'amuses, tu fais ce que t'as envie. Juste, tu les casses pas. Et puis, au fur et à mesure, son frère petit, voyant son grand frère qui était encore petit jouer, il a voulu faire de la batterie. Enfin, on les amène. C'est des enfants qui sont dans des concerts depuis qu'ils sont nés, quoi. Mais quand ils étaient petits, quand je les amenais voir mes copains qui répétaient, je pense au Cher 69, PKRK, des groupes de punk comme ça, je les avais dans les bras. Enfin, Mathias, je l'avais dans les bras quand il était bébé. On lui faisait des bouchons avec du Babybel. Enfin voilà quoi.
C'est pour ça que je suis sourd. Voilà.
C'est voilà tout ça pour dire que c'est des enfants. C'est difficile de leur demander quand est-ce que vous avez commencé le groupe parce que en fait c'est le groupe qui les a commencés dès le début, quoi, finalement.
Et qui écrit les paroles, alors, qu'on a entendu,
Matt? C'est moi qui ai écrit les paroles.
D'accord. Alors, Get Rid, il faut se débarrasser de quoi?
Il faut se débarrasser de tout, comment dire?
Toute la vieille ferraille.
De toute la vieille ferraille, de tout le métal dépassé, et à garder ce qui se fait en groupe jeune et locaux en ce moment.
Andrew O'Neill, finalement, ils rejoignent. Non, mais vraiment, c'est un heureux hasard. Ils rejoignent votre propos, en fait, parce que c'est un peu la course de votre livre. Vous racontez l'histoire du métal, et puis vous finissez par raconter l'avenir du métal jusqu'à l'an 5000 ou je ne sais plus quoi. C'est l'avenir du métal qui vous intéresse.
Yeah, absolutely. Because metal is often quite a backward-looking genre.
Oui, tout à fait. On a tendance à penser que le métal, c'est nostalgique. On fétichise le passé. Mais moi, je dirais qu'il y a de plus en plus de bons groupes de métal, il y en a plus de aujourd'hui que dans l'ensemble des années 70, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sortent des morceaux. Alors évidemment, ils sont inspirés par les géants, mais c'est génial de se lancer dans le métal aujourd'hui, c'est formidable, c'est une époque formidable pour le métal. Et puis quand on voit les jeunes comme ça qui font une musique d'une telle qualité, c'est sûr que le métal va continuer.
Le diable, c'est un personnage fort difficile, c'est un archétype, c'est un personnage extrêmement difficile à définir. Dans notre monde occidental, c'est le père méchant de la psychanalyse, c'est l'archétype maléfique et en même temps le bouc émissaire que l'on charge de tous les péchés, un catalyseur de la violence, du sadisme, du désordre, dont il est d'ailleurs le principal responsable, et de l'inquiétude, qui sont le reflet du monde même où nous vivons. Les musiciens, en somme, font exactement comme les artistes peintres ou les graphistes, et qui font appel à ces archétypes mêmes. Ils reflètent les angoisses que nous ressentons et nourrissent leur art de ces angoisses mêmes. D'ailleurs, ils sont les complices du diable. Et Giovanni Papini, le fameux auteur d'Il Diavolo, constatait, avec Dostoïevski et avec André Gide d'ailleurs, qui disent exactement la même chose, que l'artiste est un complice du mal. La création de l'œuvre d'art, écrit-il, exige et implique une certaine dose d'orgueil et elle suppose par conséquent une certaine complicité, parfois inconsciente, avec le diable. Un artiste qui n'a pas quelque familiarité avec le diable ne peut être un véritable artiste.
France Culture.
Continent Musique.
Mathieu Conquet.
Voilà, l'écrivain Roland Villeneuve en 1983 sur France Musique. Alors Andrew O'Neill, vous êtes un complice du mal, vous aussi ?
Yeah. Well, I often wear an inverted crucifix. I have Satan tattooed on my back.
J'ai Satan tatoué sur le dos.
Stand-up comedian.
Je suis humoriste, je fais du stand-up
totally
et
Satan,
je m'identifie au personnage de Satan. L'adversaire, c'est le boulot d'un humoriste d'inverser la pensée établie pour voir ce qu'il en ressort. Donc, sans l'ombre d'un doute, je suis commentateur de la société, j'essaye de faire rire les gens, donc il faut remettre en question la pensée établie, il faut tordre les croyances et il faut être rigoureux vis-à-vis des croyances. Et puis, c'est le diable qui porte en lui les meilleures mélodies, hein, y a aucun doute là-dessus.
Alors toutes les tendances, tous les courants sont représentés dans le métal. Il y a même un groupe qui s'appelle Vegan Reich. Ça donne une idée de l'étendue des styles. Il y a aussi de véritables groupes satanistes. Vous parlez par exemple de Deicide, donc. Mais vous écrivez, mais leur Satan est celui des télévangélistes.
Yeah, Deicide are a useful group.
Ouais, Deicide, c'est un groupe utile.
Unpick your own Christianity. I was brought up loosely Christian, Church of England.
Donc
so
moi,
it's a very wishy-washy kind of Christianity.
J'ai été élevé dans la chrétienté de l'Église d'Angleterre, quelque chose d'un peu fade, et donc j'ai voulu être un petit peu blasphématoire. Mais le satanisme n'a pas de contexte satanique. Ce sont en fait les gens qui vivent dans le Bible Belt. Ces télévangélistes, vous voyez, c'est ce à quoi s'opposent les télévangélistes. Donc Deicide, eux, ce sont des gens qui... Et leur Satan, c'est celui des télévangélistes, donc ils s'opposent à ça. Donc, il faut savoir qui est Satan. Mais le Satan des Deicides, ce n'est pas le nôtre. En France, il y a pas mal de gens qui considèrent Dieu comme une figure littérale, Satan comme une figure littérale, et on essaye de s'opposer ou de se positionner entre les deux. Il y a cette notion gnostique du démiurge, donc nous sommes dans un univers créé par Dieu, Satan en ressort, et c'est ce que l'on dit, et aujourd'hui il y a le chaos. Mais il n'y a pas de contexte théologique ou intellectuel s'agissant de Deicide, c'est des mecs en colère, et voilà, donc ils font de l'art par opposition à ce qui existe. Donc voilà le spectre de Satan. Il y a plein de Satan différents. Il y a une position culturelle face à Satan et peut en aller jusqu'à une conception théologique.
Alors vous allez expliquer, Andrew O'Neill, dans ce livre Metal Story, le satanisme évidemment, l'importance capitale de Black Sabbath, mais aussi plus tard comment par exemple, il y a des choses très techniques, hein, comment l'introduction de Overkill, de Motorhead, hein, cette intro avec la double grosse caisse, hein, c'est ça qui va faire naître, qui va forger le thrash metal, comment ensuite va arriver un groupe comme Metallica, puis comment plus tard arrivera le death metal, et vous consacrez un chapitre entier consacré au black metal norvégien. Ici, la vitesse augmente avec Dark Throne, Catharian Life Code, un extrait de leur album Blaze in the Northern Sky qui était paru en 92. En quoi est-ce qu'ils réécrivent, selon vous, le langage du métal extrême et pourquoi ?
Dark Throne en particulier ?
Dark Throne, vous voulez dire ?
Disons les Norvégiens.
Ou les Norvégiens.
Ouais, allez. Faisons général sur les Norvégiens puisque vous leur consacrez un chapitre entier. Il y avait quelque chose de l'ordre de la réaction dans ce que les Norvégiens ont voulu proposer ?
Oui, on est complètement dans la réaction.
The Norwegian black metal scene
le black metal norwégien est en opposition à la scène death metal. Le death metal a ses origines en parallèle du thrash metal. Il y a des démos qui remontent à 1984. Le death metal était inacceptable pour la musique mainstream. Donc...
Chuck Schuldiner
est dû aller au Canada, Los Angeles, et est impossible de faire de la musique extrême fastboard. Donc death metal est devenu mainstream. Cannibal Corpse a si vu le jour. Au Royaume-Uni, Napalm Death, on l'entendait à la radio tout le temps, ils ont même passé à la télé cela, donc c'est devenu complètement mainstream. C'était étrange. Et les Norvégiens, pour y revenir aux Norvégiens, ils ont vu cet art qui est devenu une musique écoutée par les gens de tous les jours ou les intellos. Et ça, c'est contraire à l'esprit du métal. Donc, ils ont réagi contre ça, les Norvégiens. Ils ont créé une forme de musique inacceptable pour les gens qui écoutaient du death metal. Donc, le death metal était bien produit, de très bonne qualité, avec un bon spectre audio, énormément de basses et des paroles gutturales. Et bien là, avec les Norvégiens, on est dans les aigus avec une guitare, des voix aiguës, quelque chose d'un peu crade, mais extrêmement puissant et très très lourd. Et le look était pas du tout cool, avec du cuir, des pointes, avec un aspect esthétique inacceptable pour le mainstream, et c'est justement ça qu'il visait par réaction.
Et
c'était censé concerner 100 personnes, ce qui se prenait très au sérieux en réalité. Donc ils ont commencé à foutre le feu à des églises, il y a eu des meurtres, il y a eu beaucoup de violence, c'était terrible au sein de cette communauté norvégienne underground, assez clandestine, qui est devenue très célèbre. Donc aujourd'hui, il y a des groupes de black metal qui sont plus nombreux que les groupes de death metal. C'est le double. Donc, ils ont connu la célébrité, alors qu'en fait, ils voulaient être dans l'obscurité et rester un petit peu dans l'ombre. Donc, c'est une tendance du métal extrême. Mais c'est pas inhabituel. Hein. Vous voyez quelque chose qui vous plaît pas, donc vous allez créer de l'art par opposition à ce qui vous plaît pas. Et c'est le moteur de l'art extrême, en fait, la réaction.
Alors certains vont incendier des églises, mais on comprend en vous lisant, pour des raisons moins satanistes que plutôt anti-chrétiennes, que dit par exemple le parcours d'un homme tel que Varg Vikernes du destin du métal norvégien ? Ce qu'il incarne, on le comprend quand vous le décrivez, à la fois l'idiot et en même temps quelqu'un d'assez fascinant.
Yeah, it's important. To not listen to Varg Vikernes.
Oui, c'est important de ne pas écouter Varg Vikernes, c'est quand même un trou du cul. Hein. C'est un gars intéressant, il fait une musique incroyable, il en a fait quand il était jeune. C'est un assassin qui n'a jamais exprimé de remords pour les personnes qu'il a tuées ou la personne qu'il a tuée. Il a écrit un livre sur la magie dans la mythologie nordique. Et c'est un livre pour enfants, c'est très mal écrit, c'est mal foutu, mal ficelé, c'est un complotiste. Il vit en France d'ailleurs, hein, je vous le signale, Varg Vikernes. Mais bon, c'est quand même une figure importante dans la mythologie du black metal. Et puis il a créé un de mes groupes préférés. C'est étrange d'ailleurs, hein, parce que d'un point de vue moral, je suis complètement contre tout ce qu'il représente. Il est nationaliste, moi je suis anarchiste, c'est un assassin, moi je suis vegan, vous voyez. On n'a rien en commun.
Varg
Vikernes a créé un art qu'on peut écouter, regarder, on peut s'y intéresser, mais dès qu'il ouvre la bouche pour parler, il faut vraiment se détourner de lui. We'll be right back.
Sepultura, un groupe formé dans la région de Belo Horizonte, dans le Minas Gerais, par les frères Cavalera. C'est un de vos groupes préférés, Andrew O'Neill. Hein, vous racontez notamment que vous avez assisté à un de leurs concerts en Angleterre où vous portiez 6 t-shirts de Sepultura. C'était l'hiver, vous ne vouliez pas mettre de manteau et vous aviez mis 6 t-shirts du groupe que vous avez enlevés progressivement.
Yeah, it was December 1996.
Décembre 96.
Sepultura was my favorite
Sepultura
band.
Était mon groupe préféré. Et il fallait que je porte des t-shirts plutôt que de porter un manteau. Et donc, avec plusieurs couches, on arrive à maîtriser la température. Avec un manteau, c'est binaire. Soit on le met, soit on le met pas. Mais avec des t-shirts, on peut les enlever un à un. Donc, on arrive à maîtriser la température. Donc, bref, concert important parce que c'était leur dernier concert avec Max Cavalera. Donc, le chanteur, non, pas le chanteur d'origine, mais le chanteur, disons, le plus connu de ce groupe. Et puis, ils sont séparés ce soir-là. Et moi, j'étais au concert.
Une histoire de femme, en plus, vous le racontez.
Gloria Cavalera était la femme de Max et était également le manager. Les autres musiciens du groupe pensaient qu'elle tirait la couverture vers Max. On a tout à fait raison de le penser quand on regarde les couvertures des magazines de l'époque. Et lorsque Max Cavalera était à la couverture de Metal Hammer, avec leur nouveau bébé dans les bras, on s'est demandé si c'était un magazine vraiment de musique ou pas. Et donc, les musiciens étaient en colère et ils ont décidé de virer Gloria. Max, évidemment, n'a pas voulu qu'on vire sa femme. Et c'est ainsi que le groupe s'est séparé.
Qu'est-ce qui vous intéresse chez eux ? Est-ce que c'est aussi leur aspect politique ? Parce que là, j'ai pris un des rares morceaux où on entend des bruits d'ambiance. On sait qu'ils ont enregistré avec des Indiens d'Amazonie. Ils sont très concernés par leur sort. Ils mettaient aussi en avant dans les notes de leur livret une organisation dont le but était de faire disparaître les pratiques de torture au Brésil. C'est aussi pour cet aspect politique que Sepultura va vous intéresser, Andrew O'Neill ?
Very definitely, yeah.
Ah oui, tout à fait. Et à l'origine, Sepultura m'a plu lorsqu'ils étaient en tournée pour l'album précédent. Ils parlaient beaucoup de politique. Ils sont passés des propos habituels de thrash, death et de black metal, le Satan, la mort et tout ça. Ils ont parlé de guerre, de manifs, la situation entre Israël et la Palestine. Et immédiatement, ça m'a plu, parce que c'était complètement nouveau, parce que je ne connaissais pas le crust punk à l'époque, et c'est de là que vient cette veine politique. Après, ils ont détourné leur intérêt de ce propos, mais ils étaient fiers d'être d'un pays du tiers-monde à l'époque. Et c'est ça qui m'a plu grandement en eux. Pour moi, Sepultura, c'était un groupe qui était authentique et qui avait un message important à porter. Donc, j'aime bien les chansons sur ça. Temps, la mort et ainsi de suite, mais j'aime bien la musique qui porte un message de réalisme. We'll be right back.
découverte par le groupe Arcane. Leur album Salam était paru en 2011. Ils sont français. Vous les connaissiez pas, je crois, Andrew O'Neill.
Bien, vous connaissez pas. C'est vous, je crois. Vous venez de m'ouvrir les oreilles. Merci.
Alors, c'est un groupe qui est mené par Foued Moukid, et puis à ses côtés, la deuxième voix invitée qu'on entendait, c'est celle de Kobi Fari, un chanteur israélien. Le succès du métal au Moyen-Orient, comment est-ce qu'on l'explique? Comment est-ce que vous le comprenez? Bon, là, il s'agit d'un groupe français, mais on entend cette tendance orientale.
Yeah, well, the, you know, the Middle East is a conflicted area.
Le Moyen-Orient, c'est un lieu de conflit.
Does well in conflict.
Metal,
si est bien au conflit. People, American soldiers are always telling Slayer that they're listening to this.
Américains écoutent du Slayer dans leur char.
Hein. I think it suits it. The,
et je crois que ça va bien ensemble. Une bonne partie du Moyen-Orient est très conservatrice, très religieuse, et la réaction vise à se rebeller. On a vu ça quand on a parlé de déicide. Et il y a des groupes qui vont jouer au Moyen-Orient au péril de leur vie. Parce qu'évidemment, leur musique est blasphématoire. Et le Moyen-Orient, c'est quand même assez proche. Et d'un point de vue culturel, c'est de plus en plus proche de l'Europe. Par conséquent, il y a de plus en plus d'interactions, d'échanges culturels. Et donc, le métal, c'est un petit peu comme des graines que l'on sème et qui poussent ailleurs.
Ah, ce qui est intéressant aussi à vous lire, Andrew O'Neill, c'est que vous rappelez aussi des contextes économiques, par exemple, qui accompagnent le développement des musiques. Vous rappelez, par exemple, que la première tournée de Metallica en Angleterre en 84 va être annulée, faute de prévente, puisque à ce moment-là, c'est la crise économique, alors que le groupe est extrêmement populaire là-bas, mais les gens n'ont plus d'argent, donc ils n'achètent pas de tickets de concert, et le groupe annule sa tournée. Vous soulignez ensuite que la crise de 2008 fait fermer beaucoup de salles de concert indépendantes, mais ceci sans empêcher les immeubles des grands groupes capitalistes de s'élever encore plus haut. Est-ce que la contestation économique, politique, et donc pas seulement religieuse, elle est aussi présente, et peut-être de plus en plus présente, dans le métal, Andrew O'Neill?
Yeah, I think heavy metal always does well against adversity.
Le metal aime bien l'adversité. D'abord, il y avait les groupes de thrash, donc avec un propos politique,
pas
profondément politique, mais superficiellement politique. Et maintenant, avec l'avènement de Trump, il y a de plus en plus de groupes qui s'exprime contre le gouvernement, c'est pas contre l'autorité. Plus précisément, ils détestent ce qui se passe en ce moment, quoi. Et la tendance générale dans le métal, il y a aussi des groupes de droite, d'extrême droite, hein. Mais globalement, c'est quand même une musique de rébellion, d'opposition.
There are anti-capitalist currents to be found.
Il y a
within
des courants anticapitalistes,
mais
évidemment, le secteur de la musique, c'est capitaliste. Donc, si on est anticapitaliste et qu'on fait de la musique, soit on est Rage Against the Machine, ou alors on n'existe pas. C'est bizarre, hein. C'est un paradoxe, là. Comment se rebeller contre le capitalisme alors qu'on veut utiliser les rouages du capitalisme pour connaître le succès, pour pouvoir s'exprimer? C'est pas facile.
Et c'est une musique aussi essentiellement masculine, on a envie de se dire, en vous lisant, mais où sont les femmes? Si je regarde la programmation du Hellfest, par exemple, il y a 159 groupes programmés cette année, il y a 9 groupes féminins, et je dis féminins avec une musicienne, il y a L7 qui est programmée, qui est un groupe entièrement féminin, mais en général, il n'y a qu'une seule musicienne, et en général, la chanteuse. Comment expliquer cette absence de femmes?
C'est bollocks, isn't it? I think things are about to change, and I think
mais les choses sont en train d'évoluer, hein. Elles sont sur le point d'évoluer. Dans 5 à 10 ans, vous allez voir, il va y avoir un énorme changement. Moi, je connais beaucoup de groupes qui sont des groupes de femmes. Ce sont de bonnes musiciennes qui veulent faire de la musique. Ce n'est pas parce qu'elles sont femmes qu'elles veulent s'exprimer, c'est parce qu'elles sont de bonnes musiciennes. Donc depuis une vingtaine d'années, il y a un manque de femmes dans le heavy metal britannique. Il y a eu quelques groupes avec des femmes, et puis bon, ça s'est un petit peu évaporé, mais je crois qu'il va y avoir une renaissance de femmes dans le metal. Mercer, par exemple, et on passe à des musiques plus commerciales, ça peut arriver aussi. Bon, certes, elles ne sont pas nombreuses, mais il y en aura de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les coulisses, Dans le métal, là, il n'y a que des femmes. Donc, je viens d'être co-animateur d'une cérémonie de métal et je peux vous dire que dans les coulisses, il n'y a que des femmes. Alors, faisons une petite analyse sociologique à deux balles. Lorsqu'un homme voit un groupe, il dit « moi, je veux être comme ça ». Et lorsqu'une femme voit un groupe qui lui plaît, elle dit « ah, moi, je veux être ami avec ces gens-là ». Et les femmes ont un meilleur contact social alors que les hommes cherchent à s'impressionner les uns les autres plutôt que d'être gentils les uns envers les autres, voyez. Donc c'est la sociologie à deux balles, hein, j'en conviens, mais c'est quand même pas dénué de vérité tout ça. Mais donc dans les coulisses, il y a énormément de femmes. On est en 2018, hein, c'est pas encore l'avenir, il faut attendre encore un petit peu, mais ça évolue. Et puis l'Internet ne fait pas de mal non plus. Sur YouTube, on voit des femmes qui ont une technique musicale absolument incroyable. Donc les femmes sont en train de voir qu'elles aussi peuvent le faire. J'ai demandé sur Internet pourquoi il y avait des femmes ne jouaient pas. Donc mon amie Claire a répondu, elle est allée dans un magasin, elle voulait jouer de la basse. Et les types étaient vraiment pas sympas avec elle, à tel point qu'elle s'est dit que c'est pas possible, je vais pas jouer moi, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Moi, quand je suis allé acheter ma première guitare, ils ont pas été sympas non plus. Mais moi, j'ai pas pensé qu'ils étaient pas sympas parce que c'était des mecs. Moi, j'ai pensé que les mecs qui travaillent dans des magasins de guitare sont des crétins, des connards, et puis c'est tout. Bref, vous voyez, pour les femmes, c'est difficile de monter des groupes et de jouer dans des groupes. Mais encore une fois, croisons les doigts, ça évolue.
Et vous, là, hein, et vous posez la question à Rédemption. Là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femme dans Rédemption? Elle est de l'autre côté de la vitre.
Mon épouse est de l'autre côté de la vitre et celle qui conduit le camion.
Ah bah, tout est dit.
It's unfortunate that we even have to say Black Lives Matter. I mean, if you go through history, nobody ever gave a fuck. I mean, you can kill black people in the street. Nobody goes to jail. Nobody goes to prison. But when I say Black Lives Matter and you say All Lives Matter, that's like if I was to say gay lives matter and you say all lives matter. If I said women's lives matter and you say all lives matter, you're diluting what I'm saying. You're diluting the issue. The issue isn't about everybody. It's about black lives at the moment. But the truth of the matter is they don't really give a fuck about anybody if you break the shit all the way down to the low fucking dirty ass truth. We say that black lives matter. But truthfully, they really never have. No one ever really gave a fuck. Just read your bullshit history books. But honestly, it ain't just black. It's yellow, it's brown, it's red. It's anyone who ain't got cash. Poor whites that they call trash. They can't fuck with us. Once we realize we're all on the same side, they can't split us up and let them prosper off the divide.
Body Count, un groupe de South Central de Los Angeles, formé notamment autour de la personnalité très charismatique de Ice-T, le chanteur que vous entendez ici. Et Rédemption d'ailleurs se réjouit, vous réjouissiez de l'entendre puisque vous allez le croiser là.
On joue sur la même scène, pas la même heure, mais sur la même scène. On est vraiment des super fans.
Dernier album, vraiment il a mis tout le monde à genoux avec son nouveau groupe et sa super reprise de Slayer.
Voilà, et puis oui, Slayer qui est son groupe préféré, Ice-T le mentionne souvent, et puis dans le morceau qu'on vient d'entendre, Body Count revenait sur le hashtag Black Lives Matter, hein, les vies noires sont importantes, s'adressant à ceux qui souhaitent plutôt entendre All Lives Matter, donc nuancer le propos. Alors, c'est scandaleux, vous ne citez pas Body Count dans votre livre, Andrew O'Neill, c'est pas possible, mais... Bien sûr, je fais pareil.
Il y a pas mal de groupes qui échappent à ce livre. Je dis dans le livre que l'on pourrait écrire la même histoire du heavy metal en remplaçant chaque nom de groupe par un autre nom de groupe. Moi, j'ai fait mes choix, c'est vrai, je l'avoue, mais à coup de pas.
Mais c'est passionnant parce que vous consacrez un chapitre à cette rencontre entre métal et rap. Hein. Il y a un chapitre qui s'appelle « À la fin des années 90, tous les groupes que j'aimais se sont mis à faire de la merde ». Et vous parlez de Metallica, de Slayer, de Pantera, qui vont tous à un moment ou à un autre vous décevoir. Ce qui est d'ailleurs assez passionnant parce qu'on comprend qu'il y a une mécanique de déception, d'amour, un sentiment de trahison qui est assez permanente dans le métal, dans la relation très intime que les fans ont avec leur groupe. C'est-à-dire, on les adore et puis ils nous trahissent, donc on peut plus les écouter, on veut surtout plus les entendre. Et vous évoquez donc ce rapprochement vraiment intéressant qu'il va y avoir, notamment par l'intermédiaire de Rick Rubin, le producteur qui va faire se rencontrer, en tout cas Public Enemy et le groupe de métal Anthrax. Est-ce que ce lien entre métal et rap, il n'existerait pas aussi, je me demandais, à cause du lien à l'écrit? Et j'entends par là l'importance des paroles, mais aussi de la typographie, parce que finalement, entre le graffiti et l'importance des arborescences, de la lettre, de la calligraphie dans le métal, il y a aussi quelque chose là qui se joue entre les deux genres.
Oui, c'est dommage que le rap et le métal n'aient pas fusionné davantage. Ian MacKay de Discord Records, Fugazi et Minor Threat donc, ont exprimé le fait que lorsqu'ils écoutaient du punk, du métal et du hip-hop, c'était une espèce de creuset et qu'il y aurait une espèce de fusion. Mais je crois que le secteur de musique voulait en fait tout voir à l'aune du marketing avec des segments de marché et ainsi de suite. Mais encore une fois, là aussi les choses sont en train d'évoluer parce qu'il y a des jeunes groupes de métal qui font des espèces de mash-up de musique et c'est bien meilleur que dans le passé. Il y a le mainstream et dans les festivals on voit des choses, mais dans l'underground on voit beaucoup de choses aussi. Il y a plein de trucs en ébullition et ça va, ça évolue.
Et on se quitte avec La Peur du Noir, mais en public. A phobia that someone's always there. Continuons Musique Touche à sa fin, en tout cas pour ce soir. On se quitte donc avec Iron Maiden qui sera aussi à l'affiche du prochain Hellfest du 22 au 24 juin à Clisson, près de Nantes. L'occasion de voir et d'entendre Iron Maiden, Judas Priest, Marilyn Manson, Buddy Count. Il y aura plus de 150 groupes et surtout Redemption. Vous serez le samedi sur la scène principale 2 pour des concerts à Paris. Je recommande la soirée du 29 juin au Petit Bain. Il y aura les Américains de Wolves in the Throne Room et puis le groupe français Throne en première partie. Andrew O'Neill, merci à vous. Le livre Metal Story est édité chez Hachette Heroes. C'est vraiment un livre hilarant. Merci à Xavier Combe d'avoir traduit vos propos.
Ok, c'est bon. Ok.
Toutes les informations à la programmation musicale sont à retrouver sur la page internet de l'émission Continent Musique, sur franceculture.fr, ainsi que la réécoute et le podcast. Donc, vous n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous recevrez tout.
Alors, on y va, c'est bon.
Continent Musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration de Pascaline Bonnet, la réalisation Olivier Guérin. À la prise de son ce soir, Emmanuel Morse-Duncan et Bruno Gagnère, merci à eux. Merci à Anna Lozana de Lina, Antoine Villose de la discothèque de Radio France, mais aussi à Magali Sutter qui sera comme chaque année au Hellfest. Les programmes continuent, restez en bonne compagnie sur France Culture. Bonsoir.